cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 24 décembre 1990.
Je vous avais annoncé que c'était le dernier cours de métaphysique. Jamais de prophète, vous voyez. Alors c'est à part surabondance. Je vais essayer avec vous d'un problème qui m'a été posé. Je vous avais dit qu'après avoir induit la substance, symbolique. Prenez l'écriture. connaissance symbolique est au point de départ et au terme. Et entre deux, la connaissance scientifique. Alors on aurait les mathématiques. Tout ce qui dérive des mathématiques. Et la philosophie. La philosophie spéculative. Et au terme de la philosophie spéculative, la sagesse spéculative, la métaphysique. L'itinéraire de la pensée humaine est comme ça. De fait, historiquement, et pour chacun d'entre nous, ça a été un peu comme ça. On a tous été poètes quand on était gosses. Dès qu'on a été à l'école, on a perdu le sens poétique. Alors s'il est très enraciné en nous, il revient. Il ne revient jamais. Et puis, il y a eu la connaissance mathématique. Chez la plupart, connaissance mathématique, connaissance logique. Ça va souvent un peu ensemble. Qui était la première connaissance spéculative. Et puis, alors, avec un langage très différent, qui n'est plus le même langage, qui peut être encore symbolique, mais puisqu'il y a la logique mathématique qui est symbolique. Et les mathématiques aussi ont un certain langage symbolique. On cherche des modèles. Et puis, la connaissance philosophique spéculative. Quelque chose intéressant à regarder, c'est le livre « Les degrés du savoir » de Maritain. Il est entièrement à reprendre. Mais il est intéressant. J'aurais voulu, mais ça ne s'est pas fait. J'espère qu'un jour ça pourra se faire, qu'on puisse le reprendre entièrement, et le réécrire d'une façon beaucoup plus précise. Si parmi vous il y en a un qui s'intéresse à ça, ça vaut la peine. Parce que c'est, je crois, le meilleur livre de Maritain. Les degrés du savoir. Il faut avoir lu ça une fois dans sa vie. Hein. Parce que c'est presque classique. C'est pas juste dans les précisions, mais c'est intéressant. Vous voyez, là, je vous redonne ça, comme ça. C'est un point de vue critique. En interrogeant le TST, qu'est-ce ce qui est ? Comme être, on découvre l'osia.
Pierre qui dit je suis.
c'est moi qui dis je suis. Bon, ça c'est une substance première, je peux la décrire. Quant à la substance seconde, je la connais. Elle est dans mon intelligence. Homme, quelque chose d'abstrait, qui a un mode universel, qui existe dans mon intelligence, expérience interne de ma connaissance homme. Je peux connaître l'homme. Je peux connaître cet animal particulier qui raisonne, dont la maladie est de raisonner. Il raisonne, homme. Et je vois ces deux états particuliers, ces deux manières particulières, où tous les deux touchent quelque chose d'absolu. Il y a un certain absolu dans Pierre, il y a un certain absolu dans homme. Mais ces deux absolus ne sont pas l'absolu, puisqu'ils s'appellent mutuellement. Homme est dans Pierre. Et homme, homme est dans Pierre, et Pierre, selon ce mode particulier individuel, pour bien comprendre ce qu'il est, réclame cette analyse, cette comparaison aux autres réalités, je dis homme. Donc ça s'appelle mutuellement, c'est réciproque. Ces deux absolus ne sont pas l'absolu. Et tous les deux ont une même source qui est l'au-delà du mode universel, l'au-delà du mode existentiel, qui est le principe propre de ce qui est la substance. Et petit exemple d'Aristote, très simple, mais qui est tout à fait intéressant. C'est un exemple. Montre que on est obligé de poser les idées. Et pour ça, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose. Bon, cette œuvre est déterminée. Elle est déterminée. Elle est dans le devenir, mais elle est déterminée. Elle a une finalité, elle a un but. Le but, c'est l'œuvre. Ce Fatscheré a comme cause finale l'œuvre. Mais ce Fatscheré, ça c'est la fin. La fin est faite. C'est ma première expérience de la finalité. Pour redécouvrir le sens de la finalité, aujourd'hui, partons toujours de l'œuvre d'art. Quand vous devrez redonner le sens de la finalité à des gosses qui l'ont perdu, faites-leur quelque chose. Ils feront un gâteau. Puisque c'est l'usage du gâteau qui est intéressant. C'est évident que c'est l'usage du gâteau. Parce que tant que vous le regardez uniquement, ça peut être un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre est fait pour être goûté, pour être mangé. Mais c'est quand même une fin et fait. Et quand c'est une œuvre, quand on fait une chaise, c'est aussi, elle est faite pour être utilisée. Pour l'usage. Toujours. Hein. Les œuvres d'art, c'est toujours fait pour être utilisées. Pour être regardé, contemplé. Mais c'est quand même une fin et fait. Vous vous demandez quelle est la détermination de cette opération. Quand vous avez fait ce gâteau, il y avait en vous. Si vous étiez très calé, vous saviez, il y avait une idée en vous. Ou il y avait un livre de cuisine qui vous donnait comment il fallait faire ce gâteau. Il y avait la recette. La recette, c'est l'aïdos. Il y a quelqu'un qui l'a inventé un jour. Et quand on a dit, c'est merveilleux ce gâteau. Comment avez-vous fait ça? Donnez-moi votre recette. C'est-à-dire, donnez-moi votre idée. C'est la recette. Et la recette, c'est quelque chose de pensé. C'est quelque chose qu'on peut écrire. C'est l'aïdos. C'est la méthode. Au début, on a tâtonné. Hein. On n'a pas fait du premier coup hein, un gâteau merveilleux. On avait quelque chose à mangeable au point de départ. Il y avait trop de sel. Il y avait trop de sucre. Ça n'allait pas du tout. Et puis, on s'est aperçu progressivement qu'il fallait des proportions. L'eidos. On est arrivé à l'eidos. L'archétype. C'est ça l'archétype. Qu'on pensait comment on s'avait. L'archétype de la roue. Puisque Froza a commencé par la roue. L'eidos, c'est la cause formelle, selon la forme, vous voyez, qui est dans l'intelligence, et qui dirige tout, qui commande tout, qui est source, source de détermination, et de toutes les déterminations, c'est une forme à l'état pur. L'eidos est une forme à l'état pur. Projet, c'est une forme à l'état pur. Quelque chose de pensée. Ça, nous pouvons tous comprendre ça, je crois. Dès qu'on réfléchit un tout petit peu, on a tous cette expérience-là. Puis-je, mais je vois que cet eidos est au niveau de l'intentionnalité. Simple à comprendre. Vous passez Eidétique. C'est l'eidos, tout simplement. C'est pour ça que je vais me dire le mot grec, parce que c'est le mot grec qui nous fait comprendre ce qui est premier, qui est le modèle, qui est la source de toute détermination. C'est quelque chose de premier, de radical. On ne peut pas, à partir de l'eidos, découvrir la cause, l'ousia. substance. Et alors, par mode négatif, c'est très intéressant, par mode négatif, ça me fait mieux comprendre ce que c'est que la substance. Mais négativement. Parce que l'intentionnalité vous disait toujours quelque chose de relatif. L'eidos comme tel, l'idée que j'ai, le projet que j'ai, est quelque chose de second. C'est dans mon intelligence. Dans mon intelligence, ça peut être un archétype. Dans mon intelligence, ça peut être une cause formelle. Donc ça peut être cause, ça peut être principe. Mais ces principes et causes dans l'ordre de l'intentionnalité. C'est pas un principe et une cause dans l'ordre de la réalité. Bien que cette intentionnalité soit source d'une œuvre, elle est source d'une œuvre par le travail. Elle est source d'une œuvre par le travail. Or, l'œuvre a quelque chose quand même de réel. Oui. Et c'est là qu'il faut faire grande attention. Si vous dites, cet eidos est source de l'œuvre, et l'œuvre est quelque chose de réel, donc cet eidos est source de quelque chose de réel. Si elle est source de quelque chose de réel, elle peut être substance. Oui, c'est là l'erreur de Platon. Et ce qu'Aristote dit admirablement, quand il dit, si toutes les réalités étaient des œuvres d'art, l'eidos serait substance. C'est très très beau comme critique de Platon, ça. Je crois que c'est le moment où Aristote fait la critique la plus sévère à Platon. Si toutes les réalités étaient des œuvres d'art, l'eidos serait substance. Parce qu'elle est première. Mais vous comprenez très bien que cette intentionnalité aboutit à quelque chose de réel grâce au travail. Et le travail implique une matière réelle, extrinsèque à l'intentionnalité. Le travail, c'est l'intentionnalité qui dirige le travail et qui se sert d'une matière extrinsèque à l'intentionnalité. Et grâce à la matière informée par l'eidos, j'aboutis à une œuvre. Mais le caractère réel de l'œuvre ne vient pas de l'intentionnalité. Pensez à la cuisine. Quand vous faites un gâteau, on aurait pu faire du beau gâteau des 50 ans du père maître. C'était un gâteau qui n'était pas intentionnel du tout. C'est tous précipités dessus. Bon, le goûter, le manger, c'était pas intentionnel, mais ça avait été pensé intentionnellement. Intentionnellement, il y avait une eidos du maître coq. Il y avait une eidos, mais il s'est servi de matière réelle. C'est bien évident. Il savait bien quelle était la matière qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'au terme, c'était quelque chose de réel. C'était pas intentionnel. Alors vous voyez comment très facilement, c'est là on voit très bien comment très facilement on arrive à passer de l'intentionnel au réel en disant mais ce qu'on ajoute là c'est la matière donc c'est extrinsèque. Ce qui est intéressant c'est la forme. Au niveau de la forme, au niveau de la détermination, il y a une continuité entre l'eidos et l'œuvre, puisque c'est cette eidos qui détermine le travail et c'est cet eidos qui informe la matière et donc qui lui donne son caractère propre. Donc il y a une continuité du côté forme. Mais cette continuité se réalise en se servant d'une matière extrinsèque. Si je ne regarde plus cette matière extrinsèque, je reste uniquement dans l'ordre formel. Et je vois comment je peux très bien tomber dans ce qu'on appellera en philosophie l'ontologisme. L'ontologisme prend naissance à partir de la confusion de l'intentionnalité et du réel. Alors, ça, c'est capital. continuité formelle, on ne voit pas la discontinuité existentielle, réelle. Le réel de l'œuvre d'art vient de la matière. Et c'est vrai, la réalité de l'œuvre vient de la matière. Et alors on comprend quelqu'un comme Sartre qui dira le réel, mais c'est moi jamais allé, c'est la matière. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est l'eidos. D'où, si vous considérez toutes les réalités comme des œuvres d'art, vous faites de l'eidos sa substance. Et ça, c'est au cœur de tout l'ontologisme. Ontologisme de droite, ontologisme de gauche. Ontologisme de droite, Descartes, Malebranche. Ontologisme de gauche, les idéologies athées. Il y a la même erreur des deux côtés. Feuerbach. Faites le parallélisme entre Descartes et Feuerbach. Vous verrez que les deux ont quelque chose de commun. Tous les deux bâtissent tout leur système sur l'infini. Tous les deux. D'une part, on dit l'infini prouve Dieu. D'autre part, on dit l'infini montre que Dieu n'existe pas. Vous avez le même métaxu qui aboutit à deux conclusions totalement différentes. Pourquoi? Parce que des deux côtés, vous avez le même ontologisme, c'est-à-dire la confusion entre l'intentionnalité et le réel. Et vous voyez que c'est curieux, cette confusion entre l'intentionnalité et le réel au point de vue philosophique se fait à partir de l'infini. Parce que vous ne pouvez pas le contrôler, l'infini. C'est vrai. Est-ce que vous pensez l'infini ou est-ce que vous l'imaginez? En réalité, vous l'imaginez. Vous n'avez jamais pensé l'infini. Et vous croyez penser l'infini. Le volcan. C'est imaginatif. Et c'est par le point de vue imaginatif de l'infini que vous faites la confusion entre l'intentionnalité et le réel. Donc le lieu de confusion entre l'intentionnalité et le réel, c'est l'infini, au point de vue philosophique. Au point de vue, j'allais dire, efficient, c'est l'activité artistique. Parce que dans l'activité artistique, vous passez de l'intentionnalité au réel. Mais quand vous faites ça, au niveau artistique, c'est le travail. C'est le travail qui fait le lien entre l'intentionnalité et le réel. C'est le travail qui fait la mixture des deux. Vous voyez, alors vous avez la praxis. Et vous avez l'idéologie, l'ontologie athée. C'est très curieux, vous voyez, de voir que artistique, c'est vraiment le travail qui fait passer, qui permet de passer de l'intentionnalité au réel en se servant de la matière. Alors on se sert de la matière pour incarner l'intentionnalité. Il y a des applications au point de vue de l'incarnation. philosophique, pour la compréhension des erreurs philosophiques, la philosophie de l'activité artistique est capitale. Puisque vous savez bien ce qu'a dit Heidegger, toute la philosophie occidentale n'est qu'une interprétation de la philosophie de Platon. Il y a quelque chose de très juste. Platon reste le grand-père de toute notre philosophie occidentale. Et on y revient tout le temps. On est attiré par Platon. Or, dans Platon, on est en plein ontologisme. C'est l'eidos qui est la réalité. Oui. Donc c'est vraiment par la philosophie de l'art. Alors ce qui est très curieux, vous voyez, c'est que on ne l'a pas faite en scolastique. On l'a laissé tomber. C'est par la philosophie de l'art que vous pouvez le mieux saisir toutes les confusions qui se sont faites de Platon à Hegel. Parce que vous retrouvez, en faisant la philosophie de l'art, vous voyez ce qu'il y a de juste dans ces erreurs. Il y a toujours quelque chose de juste. C'est le point de vue artistique qu'on considère comme un absolu. Oui, Nietzsche, la seule chose qui compte. Et je suis persuadé qu'on pourrait expliquer toutes les déviations de notre philosophie, de la philosophie occidentale. On pourrait découvrir toutes les déviations à partir de la philosophie de l'art. Pas de ce petit schéma que je vous ai donné là. On voit tout de suite ce passage de l'intentionnalité au réel. Comment ça se fait? D'une façon pratique, c'est le travail. D'une façon spéculative, c'est comprendre que l'intentionnalité n'est jamais quelque chose de premier, que c'est quelque chose qui est relatif à l'homme. L'homme est créateur d'intentionnalité. L'homme, c'est la fabrique d'intentionnalité. L'intentionnalité affective, l'intentionnalité intellectuelle, l'intentionnalité dans tous les domaines. Vous retrouvez l'intentionnalité. Et l'intentionnalité la plus prégnante, c'est l'art. Parce qu'il semble que l'homme soit créateur. Vous retrouveriez quelque chose d'analogue dans le secret au niveau affectif. Le secret, mais voyez, il y a beaucoup moins de danger de se tromper. C'est rare qu'on confonde le secret et l'ami. Mais ça peut arriver. Je te porte en moi, c'est suffisant. Je pense à toi, c'est suffisant. J'ai ta photo en face de moi, c'est suffisant. Pas besoin de venir, j'ai ta photo. Je pense à toi. Donc tu es là avec moi. Tu es dans mon cœur. C'est mon secret. Tu es mon secret. Tu es mon trésor. Hein? Comme la mère dit à son petit gosse, mon petit trésor. Au bout d'un certain temps, c'est tellement son petit trésor qu'elle ne pense plus qu'à son petit trésor. Et le gosse peut rester à côté. C'est l'intentionnalité, le secret. Vous avez quelque chose d'analogue. C'est très très curieux. Parce que le secret, c'est l'intentionnalité. Une intentionnalité affective. Le secret est dans l'ordre affectif. Ce que l'eidos est dans l'ordre artistique. Donc, quelque chose de premier. Alors, vous arriviez exactement le même raisonnement à faire. Pour découvrir la substance, il faut découvrir l'ami. Alors, il y a une voie d'accès par l'ami. Mais Pierre, homme, je dirais par l'ami, je peux redécouvrir la substance. Mais il faut prendre l'ami comme une réalité. Alors, l'avantage, c'est là substance